6h45, vous écoutez France Culture, bon réveil à toutes et à tous, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier. Alors justement, est-ce que ce sera Chine-Amérique, est-ce que ce sera l'Amérique toute seule ou est-ce que ce seront les Suds, le Sud? C'est la fin aujourd'hui de la 73e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, maigre bilan. Hier encore, c'était Angela Merkel en Bavière qui reprochait à Donald Trump de risquer, je cite, de détruire l'ONU. Mais derrière les dysfonctionnements de l'institution ou le moment néo-souverainiste, c'est un des termes que vous employez, Bertrand Badie, marqué par le président américain. Y a-t-il un avenir pour un autre multilatéralisme? Bonjour Bertrand Badie.
Bonjour.
Et merci d'être venu. Vous êtes donc le professeur de relations internationales à Sciences Po, auteur dernièrement de « Quand le Sud réinvente le monde ». C'est aux éditions de La Découverte. Alors, je le disais, autant le bilan des décisions fortes et maigres pour l'ONU, autant la liste des dysfonctionnements du système international est longue. Elle touche les organes de l'ONU, le Conseil de sécurité en premier lieu, d'autres institutions multilatérales comme l'OMC ou le G7 aussi, mais s'agit-il d'une crise ou de difficultés d'adaptation de l'ordre qu'elles entendent maintenir? C'est votre thèse et votre critique, Bertrand Badie, dans ce livre, pour ces institutions toutes issues de la fin de la guerre froide de 1945, mais qui sont aussi l'expression d'un ordre plus ancien que vous faites remonter à la paix de Westphalie il y a maintenant 370 ans, jusqu'à ce que vous appelez la réorganisation forcée du monde autour d'une table récupérée dans les greniers du congrès de Vienne, une de vos formules. En fait, il y aurait deux visions du multilatéralisme au moins, l'une conservatrice, l'autre disons fonctionnelle ou progressiste, l'un repose sur la puissance notamment militaire, l'autre fait tourner le monde autour de ce qu'on appelait à l'époque ces vides de puissance, ces faiblesses, la défaillance des États, l'émergence des demandes sociales pressantes, un ensemble de problèmes de développement de sécurité indissociables et la prise en compte d'une réalité, donc le Sud. Je termine rapidement, c'est 40% de la population mondiale pour l'organisation de coopération de Shanghai, 77% pour le G77, le Sud qui s'est emparé des objectifs de développement durable. Alors faut-il parler d'un possible multilatéralisme social, Bertrand Badie? On voit ça, juste votre bilan, vous, de cette Assemblée Générale de l'ONU, donc le match des champions Trump-Macron, presque caricatural cette année, ou qu'est-ce que vous retenez?
Ben, j'ai été frappé, moi, par la nature répétitive de cette session. Si on a encore en tête ce qui s'est passé le 19 septembre 2017, c'est-à-dire à la précédente session de l'Assemblée Générale, on avait exactement le même duo. Le matin, Donald Trump, l'après-midi, Emmanuel Macron, avec exactement la même structure discursive. Et donc, c'est là l'image de peut-être la menace qui pèse le plus sur les Nations Unies, c'est-à-dire d'être venu une structure rhétorique, c'est-à-dire un endroit où on s'exprime. Pendant la guerre froide, on appelait ça un forum. Maintenant, c'est moins un forum puisqu'on n'est pas dans une logique d'affrontement direct comme ça pouvait être du temps de la guerre froide. Mais du point de vue fonctionnel, c'est la même chose. On a l'impression d'une juxtaposition de discours et d'affirmations plus que d'une marche coopérative de l'institution. C'est en cela, effectivement, qu'elle est bloquée aujourd'hui au grand dam des grands secrétaires généraux qui se sont succédés, et notamment du très regretté Kofi Annan qui l'avait mis en évidence durant ses deux mandatures.
Et alors, je le disais, match des puissances, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on a effectivement deux puissances anciennes, occidentales, militaires. En quoi est-ce que, justement, cette ONU aujourd'hui et cet ordre, il est vraiment l'expression de cet ordre issu des traités de Westphalie? C'est parce qu'on veut à tout prix y protéger une certaine souveraineté ou...
Vous savez, on vit un mouvement assez rare dans l'histoire des relations internationales qui est un moment de décalage, c'est-à-dire où le système international qui fonctionne est déjà périmé dans les fonctions qu'il prétend accomplir, ce qui est une contradiction majeure. Les dirigeants des vieilles puissances veulent à tout prix faire comme si l'ordre ancien, dont la dernière manifestation vitale était la guerre froide, demeure, en ignorant totalement que l'ordre international a changé, les conflits ont changé de nature, les enjeux internationaux et donc l'agenda international ont changé de nature. On ne veut pas voir. Il faudrait remonter à la période de la Renaissance, c'est-à-dire juste avant Westphalie, pour trouver la même chose, où des acteurs comme l'empereur Charles Quint voulaient, dans un monde renouvelé et désormais stato-national, fonctionner sur un mode impérial. Vous voyez, c'était déjà effectivement une déconnexion par rapport rapport au réel, et d'ailleurs ça a coûté fort cher à l'empereur Charles Quint et à son successeur Philippe II. Nous vivons aujourd'hui le même moment, c'est-à-dire ceux qui ont la main, c'est-à-dire essentiellement les vieilles puissances, puisque c'est elles qui dominent notamment au Conseil de sécurité, sont dans l'ignorance, je dirais presque militante, des données nouvelles du système international, c'est-à-dire la mondialisation, c'est-à-dire effectivement un Sud dont la croissance a toujours été ignorée, parce qu'au début c'était la guerre froide, et donc pendant la guerre froide on avait la tête ailleurs, mais qui maintenant de plus en plus sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan social, domine les grands enjeux de la planète. On veut ignorer la nature nouvelle des conflits, c'est-à-dire les conflits au Sahel ou en Mésopotamie n'ont rien à voir avec la Première Guerre mondiale et ce n'est pas une nouvelle bataille de la Marne qui pourra les résoudre. Donc, on est dans cette situation de décalage qui est extraordinairement dangereux parce que rien n'est pire que l'ignorance lorsqu'on entreprend des œuvres qui sont destinées à profiter et à intéresser, concerner tout le monde.
Et avant qu'on parle de la réinvention proprement dite par les Suds, est-ce que vous voyez une possibilité, disons, de résorber ce décalage à très court terme ? Par exemple, on voyait le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, qui plaidait pour une réforme encore du Conseil de sécurité de l'ONU, mais pour réparer, dit-il, une injustice faite à l'Afrique. Sous-entendu, il faudrait sans doute un représentant de l'Union africaine. Le Burkina, qui lui-même est très impliqué justement dans ces questions à la fois développementales et sécuritaires, et il a plaidé en ce sens, Alpha Barry.
Oui, alors deux choses. Je crois qu'effectivement, la solution partira d'une refonte du multilatéralisme. Réforme du Conseil de sécurité, c'est absolument évident pour les raisons que vous rappeliez, mais je dirais aussi réforme de l'agenda multilatéral, et notamment mettre en avant ce qui est aujourd'hui la pierre angulaire de tous les enjeux internationaux, à savoir les grands enjeux sociaux internationaux. On n'est plus dans le temps militaire, on est dans le temps de la décomposition sociale mondiale, avec toutes les violences que cela peut produire. Ceci dit, votre remarque est pertinente. La grande difficulté, c'est que ces États du Sud qui se débattent avec tout un ensemble de problèmes de plus en plus graves, qui font preuve de lucidité, en même temps, sont des États classiques et souvent des États clients des vieilles puissances. Et donc, ne parviennent pas à s'affirmer comme l'aile marchande de la transformation. Ou alors, si elles le font, c'est sur un mode contestataire, voire déviant, je dirais, à la Chavez, à la Ahmadinejad du temps où il était président de la République islamique d'Iran. C'est-à-dire sur un mode qui est très peu soluble dans les relations internationales contemporaines.
Et alors maintenant, pour la réinvention, vous dites dans votre ouvrage que ça ne se fera pas sans l'intervention d'une méta-souveraineté, donc j'engage vraiment nos auditeurs à s'y reporter parce que c'est très intéressant. Mais quels exemples est-ce qu'on pourrait prendre, les meilleurs de cette éventuelle prise en compte sociale ? Est-ce que c'est le pacte mondial sur les migrations qui va avoir lieu bientôt, là vraiment sous l'égide de l'ONU, un des grands traités, dans la suite des grands traités de l'ONU, ou est-ce que c'est cette question de la justice climatique qui commence à produire des effets judiciaires réels avec des États signés ?
Alors, plusieurs choses. Le pacte mondial auquel vous vous référez, c'est peut-être un premier pas, en tous les cas symbolique, mais vous savez que c'est un pacte qui ne sera pas contraignant et qui donc restera au niveau symbolique. Et aujourd'hui, on a besoin d'autre chose que des symboles. Donc, c'est pas tellement dans cette direction que je regarde, mais c'est plus largement effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les biens communs de l'humanité qui prennent une position d'autant plus forte dans la hiérarchie des enjeux internationaux que, d'abord, comme je le disais il y a un instant, ces grands enjeux sociaux internationaux sont autrement plus déterminants que des querelles diplomatico-stratégiques ou, comme on dit avec beaucoup de guillemets, géopolitiques. Et d'autre part, cela effectivement implique le dépassement de la souveraineté. Monsieur de la Palisse serait d'accord avec moi. Quand vous dites enjeu commun, bien commun à l'ensemble de l'humanité, ce n'est plus la souveraineté ou les principes souverainistes qui sont aux commandes. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, la souveraineté est dépassée. Alors, il y a deux façons de réagir. Il y a même trois. Il y a la manière conservatrice des vieilles puissances, c'est-à-dire on garde l'ancien droit international, on essaye de bricoler des accords internationaux avec ça.
Première hypothèse, ça peut tenir.
Ouais, enfin, les résultats n'ont pas été probants. Deuxièmement, il y a ce que j'appellerais l'archéo-souverainisme, c'est-à-dire faire de la souveraineté un principe de repli sur soi-même et considérer à la Trump ou à la Orban que, de toute manière, seuls les choix d'État et les intérêts nationaux sont valides. C'est une catastrophe.
catastrophe, d'abord parce que ces gens-là n'ont rien à offrir pour gérer la mondialisation. La troisième, c'est une tentative, et ça je crois que ça va être l'actualité intellectuelle de notre siècle, de combiner souveraineté et mondialisation. Et il y a un acteur qui est passé maître dans ce domaine, qui est la Chine. La Chine est d'un souverainisme frileux de bien des points de vue, notamment pour son intégrité territoriale, mais accepte pleinement la mondialisation et de se plier à un jeu qui quelquefois lui fait mal dans ses réflexes souverainistes, mais qui, en tout cas, lui permet d'être présent dans le monde. C'est ça l'enjeu actuel.
Et précisément la Chine au cœur de cette OCS et de ce G77, on en reparlera, mais j'engage nos auditeurs encore une fois à lire cet ouvrage « Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse », édition La Découverte. Merci Bertrand Badie.
Merci à vous.